Au lendemain de la Journée internationale du bénévolat, c'était le 5 décembre, on redécouvre en compagnie de Maxime Bergeron-Laurencel la mission des grands frères et grandes sœurs de Montréal. Monsieur Bergeron-Laurencel en est le directeur général. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Alors, depuis combien d'années vous êtes directeur général des grands frères et des grandes sœurs de Montréal?
5 ans et demi. Je suis arrivé à peu près en 2016.
Ah oui.
En milieu 2016, oui.
Et depuis
belle aventure.
J'en doute pas deux secondes. Depuis quand l'organisme existe? Je pense que ça fait plus que 5 ans.
Oui. Ben oui, ça fait quand même plus que 5 ans. Bon, pour le chapitre du Grand Montréal, on est actif depuis 1976. Donc,
L'année des Olympiques.
Oui, l'année des Olympiques. Exactement.
Donc, 45 ans. Et rappelez-nous la mission des grands frères et des grandes sœurs de Montréal.
Ben oui, ben, la mission, en fait, de grands frères et grandes sœurs, c'est de créer des relations de mentors inspirantes et déterminantes qui vont révéler le plein potentiel des jeunes, puis surtout les outils pour l'avenir. Donc, on crée des relations entre des adultes qui deviennent significatifs et des enfants on crée des relations pour qu'ils puissent se développer.
Et qui sont les enfants qui sont appelés à faire partie de l'organisme, qui sont admissibles, en fin de compte?
Ben, admissibles tous les enfants. En fait, c'est des enfants en fait, nos programmes s'adressent aux enfants, puis même moins enfants, là, de 6 à 21 ans. On a un nouveau programme là, qui s'adresse aux jeunes pour la transition à la vie adulte, des jeunes qui sont issus d'un parcours DPJ, donc qui ont été accompagnés par la DPJ, mais là, ils ont 18 ans, l'État ne les supporte plus, donc nous, on a créé ce projet-là avec la DPJ. Mais donc, sinon, c'est des jeunes, c'est n'importe quel jeune qui ont vécu de l'adversité, qui n'y a pas de critères particuliers au-delà de, il faut que le jeune puisse être en mesure d'évaluer puis de participer activement à la relation, puis aussi de savoir. Je l'explique souvent comme ça, d'être capable d'identifier dans sa petite voix intérieure quand cette relation-là n'est pas tout à fait à la bonne place. Si un jeune, donc, n'est pas capable de mesurer un peu sur le niveau de dangerosité d'une relation, ben, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour lui ou elle.
Quand vous dites qu'il n'importe quel jeune qui a vécu de l'adversité, de quoi vous parlez précisément?
Ah ben, ça peut être, on vit tout de l'adversité, mais pour certains jeunes, ça peut être, je sais pas, des problèmes de santé mentale à la maison, difficultés financières, eux-mêmes des problèmes de santé mentale, une séparation, des séparations qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, toutes des stress majeurs, donc, qui ont vécu. C'est à peu près n'importe quel jeune au-delà de.
Entre 6 et 21 ans.
Entre 6 et 21 ans, oui, c'est ça.
Et, M. Bergeron-Laurencel, quels sont les prérequis quand on veut devenir grand frère ou grande sœur?
Être disponible, c'est un premier prérequis parce que c'est un investissement quand même assez. On demande un investissement de temps assez considérable, surtout pour la première année. En fait, c'est une fois que le jumelage est créé, on demande que le bénévole puisse voir l'enfant aux deux semaines.
Donc,
une fois par deux semaines, oui, puis pour au moins une année. Donc, on demande un engagement d'au moins une année.
Oui.
Pour être sûr qu'on crée la relation. Fait que la relation au début, c'est complètement artificiel. Les deux personnes qui ne sont jamais rencontrées. Donc, on demande un investissement de temps un peu plus significatif aux bénévoles et de faire les suivis avec nous. Donc, on fait les suivis pas mal pendant la première année. Et règle générale, de toute façon, après 2-3 ans, la relation a comme moins besoin de grands frères, grandes sœurs. La relation devient autonome. Ils se voient à une fréquence sur laquelle ils sont habitués.
Ouais.
Et donc, la relation continue. Souvent, même pour le reste de la vie des personnes.
Ah oui? Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là?
Ben oui, en fait, moi, je vous dirais 95 % des personnes qui ont été jumelées continuent à se voir pour très longtemps. Puis il y a un monsieur qui a été jumelé à son petit frère dans les années fin 70, début 80, et qui se voit encore une fois par mois. Son petit frère est plus vieux que moi, donc il se voit encore une fois par mois depuis les années 80. Donc.
Est-ce qu'il y a plus de grands frères que de grandes sœurs?
Non, malheureusement. C'est un des enjeux, en fait, pour le bénévolat en général, mais pour grands frères et grandes sœurs en particulier. On a une liste d'attente où on a beaucoup de petits frères qui sont en attente d'avoir un grand frère.
Parce qu'un petit frère ne peut pas avoir une grande sœur.
Oui, il peut avoir une grande sœur, ça, tout à fait.
Okay.
Souvent, par contre, parce qu'on crée cette relation-là, puis c'est la relation qui devient intéressante et importante, peu importe le genre de la personne.
D'accord.
Sauf que souvent, on a beaucoup, quand même, moins d'hommes qui deviennent bénévoles. Souvent, on peut avoir certains chiffres, mais les personnes qui arrivent sur notre site et de sexe féminin qui arrivent sur notre site, entre le moment où ils arrivent et qu'ils cliquent sur le formulaire pour devenir bénévole, il se passe à peu près 15 minutes. Alors que pour les hommes, il se passe à peu près une année.
Ah,
on voit la personne revenir, l'homme revenir une année après pour dire « OK, ben là, j'ai du temps. »
Il y a de l'hésitation.
Il y a de l'hésitation. Pour, c'est ça. C'est un autre type de bénévolat, donc on est en recherche constante de bénévoles masculins.
Et quel est le profil du grand frère et de la grande sœur?
Ben, comme je le disais, c'est une personne souvent universitaire, qui n'a pas d'enfant encore, dans la trentaine, mi-trentaine ou début trentaine.
Est-ce qu'on peut être grand frère à tout âge, à partir du moment où on est majeur?
Oui. Oui, tout à fait. À partir du moment où on est majeur, puis jusqu'à, dans la mesure où, tu sais, l'idée c'est de créer une relation puis de pouvoir faire des activités avec le jeune. Et passant des activités, ça peut être d'aller jouer au parc, ça peut être d'aller patiner, c'est pas rien de toujours extraordinaire.
Ouais.
Des choses de base là. Puis souvent les jeunes nous disent, ben moi, tu sais, le moment le plus marquant avec mon grand frère ou ma grande sœur, c'est cette fois là quand on est allé dans le parc puis on a jasé deux.
La fois où je me suis senti écouté.
Exactement, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là. Puis, et où il y a eu un adulte qui était disponible juste pour moi et à ce moment-là, puis j'en avais besoin.
Est-ce que vous donnez une formation aux gens qui veulent devenir grand frère ou grande sœur?
Oui, une formation de base. En fait, sur certaines réalités vécues par les jeunes, mais en même temps, tu sais, c'est pas des intervenants psychosociaux. Ce sont des personnes bénévoles qui vont entrer en relation avec les enfants. Mm-hmm. Et que c'est plus dans l'accompagnement continu sur, ben, tu sais, je sais plus comment ils jasent, il me semble gêné, je sais pas quelle activité proposer. Et ça, donc, notre équipe accompagne le bénévole ou la bénévole tout au long de cette relation-là. Puis les choses qui arrivent dans le cadre de la relation, puis on a besoin un peu de support pour pouvoir continuer, comme n'importe quelle relation, puis notre équipe est là pour ça.
Vous disiez tantôt que ce qui est important, c'est que la personne qui s'engage pour vrai, là, qu'elle soit disponible. Et quelles seraient les autres qualités que ça prend pour être un bon grand frère ou une bonne grande sœur?
Ben, tu sais, en fait, des personnes qui sont, ben, oui, bien sûr, l'altruisme, bien sûr, le désir de s'impliquer, mais tu sais, il y a autant d'enfants différents que de bénévoles différents. Et nous, ce qu'on fait, il y a des enfants qui sont plus timides, d'autres plus exubérants. Même chose pour les adultes. Et on essaie de créer une relation où les deux personnes vont se compléter puis vont vouloir être ensemble. Ce qui fait que ça peut être n'importe quel. La provenance des bénévoles peut venir de n'importe où, peu importe le genre, l'orientation, la culture, les intérêts. On essaie de coller sur les intérêts de l'enfant.
Ouais, comment vous procédez pour le jumelage?
Ben, on fait une évaluation familiale. On fait un peu ce qu'on appelle une évaluation familiale. On regarde le parcours du jeune. Puis plus ils sont jeunes, plus c'est, je vous dirais, fais-moi un dessin de ce que tu voudrais faire dans la vie ou fais-moi un dessin de ta maison et tes relations familiales. Sinon, c'est une discussion. Donc, on rencontre le jeune puis on essaie d'avoir une bonne idée de ce qui le motive ou ce qui l'intéresse ou pas. On fait la même chose avec les bénévoles. Puis notre équipe, donc, jumelle théoriquement sur papier au départ en disant, on pense que Mme Denis puis le petit Maxime, ça marcherait ensemble. Bon, ben, on va les faire se rencontrer. Et là, on les fait se rencontrer avec souvent le parent ou le tuteur. Et puis le jeune et la bénévole, une première fois, se rencontrent. C'est un peu bizarre comme rencontre, hein, parce que les deux ne savent pas trop quoi dire.
Ouais.
Mais souvent, à la fin du 15-20 minutes, ils ont déjà décidé de l'activité qu'ils vont faire la semaine suivante. La relation a commencé.
Est-ce que c'est le jeune qui décide la plupart du temps de l'activité qu'il veut faire avec son grand frère ou sa grande sœur?
Oui, ben oui, je dirais que généralement, on demande aussi aux bénévoles d'ouvrir les horizons des jeunes. Fait que de proposer aussi des choses dans lesquelles eux aussi vont se bien sentir. Mm-hmm. Mais bien sûr, c'est les jeunes qui vont décider en bout de ligne.
Et si moi je deviens une grande sœur et je veux amener mon petit frère ou ma petite sœur au restaurant, est-ce que c'est moi qui paye?
Règle générale, c'est les parents ou le tuteur qui paye. C'est pas parce que le bénévole est là, il est disponible. Donc, on demande à ce qu'il y ait un arrangement avec le parent pour faire des activités. Puis c'est pour ça aussi qu'on dit aux bénévoles, ben, allez pas en ski une semaine, ensuite faire du parapente l'autre semaine, ensuite, gardez ça simple.
Oui,
c'est
oui.
Pas des dépenses qu'on vous demande non plus.
Parce que ça peut créer aussi un peu d'attente par la suite, puis de la jalousie autour, peut-être.
Ben oui, tout à fait. Ouais. Mais et d'autre part, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre de payer des activités comme ça à chaque deux semaines. Donc, on dit aux gens, effectivement, aller au resto, aller prendre une crème glacée d'été ou aller découvrir un type de mets ou peu importe. Mm-hmm. Ben, c'est des choses assez simples, puis l'enfant ou son parent peut payer.
Oui, c'est ça. Le but, c'est d'être vraiment présent à l'autre, être attentif, s'investir, l'écouter, s'intéresser pour vrai
exactement.
À la petite personne.
C'est juste de partager un moment. On partage trois heures, on décide d'une activité qu'on fait ensemble, mais je suis comme adulte là expressément pour toi. Puis et on va jaser, puis on va rire, puis on va découvrir des choses ensemble. C'est vraiment cette relation-là sur laquelle on se base.
Et comment ça marche? Vous dites que bon, on se rencontre au moins pour la première année, c'est une fois par deux semaines. C'est oui. Un avant-midi, un après-midi. Ça peut être une journée. Est-ce que c'est le grand frère et son petit frère ou sa petite sœur qui décide?
Bien, on va essayer d'arranger aussi l'agenda avec les parents ou le tuteur, la personne ouais. responsable de l'enfant. C'est une demi-journée, fait que ça peut être le matin ou l'après-midi, le samedi ou le dimanche, souvent plus le samedi ou le dimanche, là, parce que les enfants ont de l'école le reste de la semaine. Et donc, on essaie d'arranger les agendas de tout le monde. Il y a une famille chez nous qui a 7 enfants jumelés sur 10. On a aussi dit aux bénévoles, ben essayez donc de vous, excusez-moi de l'anglicisme, mais de vous timer.
Ouais.
Allez-y en même temps.
De vous coordonner.
Ben oui, coordonnez-vous parce que la maman qui est tout seule à la maison, soudainement, il y en a 7 qui partent en activité et elle peut s'occuper juste des 3 autres.
Ah oui, ça lui fait du répit.
Ça lui fait un petit répit, c'est ouais. ça. Donc, on essaie d'organiser l'agenda en fonction des besoins des familles, des enfants et des bénévoles.
Et est-ce qu'il y a certains jumelages qui ne fonctionnent pas?
Oui, ça arrive, effectivement. Mais c'est pas hyper fréquent. Souvent, ça commence au début et le jumelage fonctionne, mais bon, ça peut arriver que les deux, tu sais, qui ont une chicane monumentale puis qui sont pas capables de les régler, ça peut arriver comme ça vous est arrivé, j'en suis sûr, dans votre vie, ça m'est arrivé moi aussi. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Mais règle générale, ça fonctionne, les relations. Ça fonctionne, comme je vous disais tantôt, là, à long terme.
Mm-hmm. Alors, grand frère, grande sœur, ça existe à travers le Québec?
Oui, il y a 12 organisations au Québec et à travers le Canada. Donc, on est 95 organisations distinctes un peu partout au Canada. C'est ça, et on est 12 au Québec. Montréal étant l'organisation la plus grosse là, sur le territoire québécois.
Et pendant la pandémie, mais qui est toujours en cours malheureusement, là, est-ce que ça crée beaucoup d'obstacles pour votre organisme?
Oui, bien sûr. Et souvenez-vous, il y a 20 mois maintenant, on avait un peu plus peur, on savait pas trop. Mm-hmm. Il y a certains bénévoles qui ont dit, ben moi, je sais pas si je veux rencontrer ou je suis encore en mesure de rencontrer le jeune avec qui je suis. Pendant un autre moment donné, une autre période, les rencontres se faisaient, mais de trottoir à balcon.
Ouais.
C'était un peu complexe, ou sinon même juste virtuel. Et puis, c'est une relation virtuelle, même si on s'est habitué, là, ça reste pas une relation qui est très, très... satisfaisante. Ça a été difficile pour beaucoup des jumelages, beaucoup des bénévoles aussi, puis des enfants.
Mais là, les rencontres se font en présentiel, ouais. pour utiliser le mot à la mode, avec un masque, j'imagine?
Oui, oui, on respecte les mesures sanitaires.
Ouais.
Puis les activités se font en présentiel, effectivement.
Oui. Et si on va avoir plus d'informations là, sur les grands frères et les grandes sœurs, on va où?
Ben, directement sur notre site, Grand Frère, Grande Sœur du Grand Montréal, vous allez nous trouver assez facilement.
gfgsmtl.qc.ca.
Exactement. Vous pouvez aller là, puis je vous invite effectivement à devenir bénévole ou à nous supporter d'une autre façon, notamment en faisant un don, d'un organisme philanthropique quand même.
Et qu'est-ce que ça apporte aux grands frères et grandes sœurs? Qu'est-ce qu'ils vous confient sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent?
C'est une très bonne question. Et effectivement, c'est un des aspects qu'on oublie souvent, mais ça apporte juste d'avoir cette relation-là. Il y a plusieurs bénévoles qui nous disent, tu sais, j'ai découvert ça sur moi, j'ai découvert que ça, j'aimais ça, j'ai découvert cette énergie-là, et j'ai découvert une relation que moi-même je trouve inspirante. J'aime cette nouvelle personne-là, cette nouvelle relation-là. Donc ça apporte beaucoup. Comme en fait, c'est vraiment une nouvelle personne qui entre dans la vie. L'un de l'autre, et puis qui les deux s'apportent beaucoup de choses.
Maxime Bergeron, Laurentiel, directeur général, un grand merci d'avoir été avec nous. Puis je vous souhaite une belle continuation chez les grands frères et les grandes sœurs de Montréal et plusieurs appels, surtout des hommes.
Oui, parfait. Merci, madame.
OK, au plaisir.
Au plaisir, au revoir.